Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous écoutez notre podcast, on va parler de deux réseaux sociaux conversationnels qui attirent actuellement l'attention des journalistes et des médias, Twitch et Clubhouse.
La première règle du Fight Club est: il est interdit de parler du Fight Club.
Tout à l'heure, avec Marjorie Paillon de l'émission Tech24, on discutera longuement du réseau social Clubhouse, où se tiennent des conversations avec la seule force de l'audio. Mais commençons par Twitch. Twitch est une plateforme de vidéos en direct prisée des amateurs de jeux vidéo. Elle a été lancée en juin 2011. Amazon l'a rachetée en 2014 pour près $1 milliard et elle continue à se développer. Les premières années de ce service, il y avait surtout des gamers qui se filmaient en train de jouer aux jeux vidéo. On voyait aussi des compétitions de e-sport, mais dans la seconde moitié des années 2010, le profil des streamers, comprenez les gens qui diffusent des vidéos, s'est diversifié. Et donc, de nouvelles catégories sont apparues sur Twitch. Des contenus culturels, comme la musique, du sport, des discussions politiques, et désormais, on voit même des streams de revues de presse et des interviews. En Europe francophone, une personnalité a largement contribué à faire sortir Twitch du seul cercle des gamers.
Je suis.
C'est Samuel Etienne. Journaliste, il présente la matinale de la chaîne d'information du service public français, France Info. L'après-midi, on le retrouve à la télé, cette fois avec une casquette d'animateur d'un jeu télévisé, surtout suivi par un public de seniors. Question pour un champion. Mais entre les deux, Samuel Etienne tient depuis la mi-décembre 2020 une revue de presse en direct sur Twitch depuis sa cuisine. Il a intitulé ce stream quotidien « La matinée Etienne ». Et depuis le début, c'est un succès, visionné par des dizaines de milliers de spectateurs chaque jour. Twitch devient une place publique où l'on discute de l'actualité et le stream de Samuel Etienne devient un véritable canal d'information. Mais le journaliste, animateur, streamer ne s'est pas arrêté là. Lundi 8 mars au soir, il a reçu chez lui, oui, dans sa cuisine, une personnalité.
Bonsoir à tous, comment ça va? Mais alors, avec François Hollande, on est extrêmement surpris parce qu'on a jeté un coup d'œil au nombre de personnes qui étaient déjà présentes et on n'en revenait pas. Bonsoir. Ah, mais voilà, déjà le FC Bienveillance est là. Comment allez-vous?
Ben, je vais bien parce que je suis chez vous, là, une heure qui n'est pas habituelle. On m'a dit que c'était normalement le matin. Je suis venu un peu tôt aujourd'hui, mais je ne passerai pas toute la nuit. Je veux rassurer la famille.
Pendant plus de 2 heures sur Twitch, François Hollande a échangé avec Samuel Etienne et sa communauté. Cette diffusion a été classée numéro 1 dans le monde sur la plateforme au moment où elle s'est achevée. Un pic à 84 000 spectateurs en direct a été signalé et au moment où j'enregistre cette émission, on en est à plus de 700 000 relectures au total. Preuve qu'il y a un public pour ce type de conversation. Et Samuel Etienne a d'ailleurs prévu de remettre le couvert dimanche 14 mars au soir avec le Premier ministre français Jean Castex.
L'atelier des médias.
Alors évidemment, encouragé par le succès de Samuel Etienne depuis quelques semaines, des médias essaient d'investir ou de réinvestir Twitch. Chaque marque de médias arrive évidemment avec son identité, sa notoriété de marque, mais elle se trouve confrontée aux exigeantes communautés de Twitch. La chaîne franco-allemande Arte n'a pas pris trop de risques, mais du coup a réussi son arrivée sur la plateforme en proposant un magazine interactif bimensuel consacré aux jeux vidéo, intitulé « Jour de Play ». Le quotidien français Ouest France a aussi lancé quelques streams sur les séries, le foot ou des discussions plus globales sur l'actualité. TF1 s'apprête aussi à débarquer sur Twitch. Elle a été précédée par BFM TV, chaîne d'information en continu, dont les débuts ont été compliqués par un accueil pas très chaleureux de la part des communautés de Twitch. Pour analyser la façon dont les médias s'emparent de Twitch, j'ai appelé Vincent Carlino. Il est chercheur post-doctorant à l'Académie du journalisme et des médias de Neuchâtel, en Suisse. Il y a quelques semaines, il publiait un très bon article sur le site La Revue des médias de l'INA à propos de Twitch et des médias français.
Twitch a aussi cet aspect, peut-être au premier abord, qui peut être rassurant pour des médias type broadcast, habitués à diffuser des contenus toute la journée, de manière massive, et ce à quoi ressemble fortement Twitch. Mais si on a pu penser longtemps que Twitch était une plateforme de vidéo, ce qui est vrai, c'est surtout une plateforme sociale ou de participation, de discussion. Ce qui fait l'essence même d'un stream, c'est cette petite colonne qu'il y a sur la droite, qui est le chat. Donc c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, prendre la température et puis s'intéresser au code et ce qui caractérise l'univers, le vocabulaire qu'on peut retrouver dans ces différents chats.
En gros, avant de diffuser sur Twitch, les médias doivent passer par une phase de compréhension des usages de la plateforme et des nombreux codes des communautés qui s'y trouvent.
Dans les chats, les codes sont en fait pour la plupart des références qui sont liées à un univers que le streamer ou la streameuse va progressivement et de façon plus ou moins spontanée créer en fait. Souvent quand on débarque pour la première fois sur un stream et qu'on essaye de se raccrocher et de comprendre ce qui se dit dans le chat, on a parfois du mal à suivre parce qu'il y a tout un vocabulaire et des références parfois culturelles, parfois liées au monde du jeu vidéo, parfois liées à la personnalité de la personne qui stream, qui fait que il faut se frotter finalement à cet univers et puis en comprendre les codes.
Twitch ne propose pas vraiment une révolution dans les formats, mais s'y trouvent des communautés exigeantes que les médias peuvent atteindre s'ils savent se remettre en question, travailler leur positionnement, repenser les formats existants et prendre le temps nécessaire pour le faire.
Ce que les médias peuvent venir chercher sur Twitch, c'est justement ce lien qui a été peut-être rompu ou fragilisé avec leur public. C'est ce que viennent chercher la majorité des médias, en tout cas francophones, qui se développent actuellement. C'est de développer des programmes qui mettent le public au cœur du contenu, en fait, et des interactions. Ce que nous apprennent ces streamers, au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, de développement d'une culture, de valeurs communes, etc., c'est quelque chose qui est essentiel sur Twitch, c'est de comprendre la plateforme et d'y rester. C'est-à-dire que de faire un stream de test, c'est une étape qui est certes importante, mais on considère que quelqu'un est installé sur la plateforme quand il s'inscrit dans une forme de régularité. Et c'est ça qui est le vrai enjeu pour les médias.
C'était Vincent Carlino, chercheur post-doctorant à l'Académie du journalisme et des médias de Neuchâtel, en Suisse. Je vous invite à lire sur larevuedesmedias.ina.fr l'article qu'il a publié à propos de Twitch et des médias. Passons maintenant à un deuxième service en ligne qui a piqué l'attention des journalistes et des médias en ce début d'année 2021. C'est une application de conversation audio, pour l'instant uniquement disponible sur iPhone et sur invitation. Je veux parler de Clubhouse. Pour la présenter et en discuter, j'ai invité Marjorie Paillon, qui présente chaque semaine sur France 24 l'émission Tech 24. Elle connaît bien l'écosystème des startups et des médias, et elle est parfaitement bilingue français-anglais. Elle travaille d'ailleurs au quotidien dans les deux langues. Je vous prie d'avance de nous excuser pour les anglicismes qui ont pu fleurir dans la conversation qui va suivre. Salut Marjorie!
Hello Steven.
Tu as rejoint Clubhouse le 27 décembre 2020. On peut donc dire que tu es une early adopteuse, hein, car le service a commencé à exploser il y a quelques semaines seulement dans le monde francophone. Première question que j'ai envie de te poser, Clubhouse, est-ce que ça ne te fait pas finalement furieusement penser au web des années 2000 ?
Alors, première réponse, on peut rien te cacher, oui, car c'est public sur Clubhouse, on sait exactement à quelle date tu as démarré ton activité sur Clubhouse, et surtout, quelle est la personne qui t'a coopté, parce que pour l'instant, on est encore dans cette idée, ce fait tout simplement, que Clubhouse est un réseau par lequel on entre sur invitation. Donc c'est un club, comme son nom l'indique, qui a été assez privé du printemps dernier jusqu'à la fin de l'automne, qu'il devient un peu moins aujourd'hui parce qu'on a la possibilité en effet de pouvoir de plus en plus envoyer d'invitations. Et puis certains pays surtout ont été ouverts par les fondateurs de Clubhouse. Je pense évidemment à des pays européens, mais aussi à l'Asie. On reparlera, j'imagine, tout à l'heure du cas particulier de la Chine. Mais c'est assez intéressant. Est-ce que ça me fait penser à cette effervescence ? Oui, peut-être à ceci près que on est aussi entré dans une ère où on adore brûler ce qu'on a adoré, donc les majors, si j'ose dire, du réseau social, les plateformes qu'on connaît tous, Facebook, Twitter, et ces galaxies-là, finalement, on essaie de trouver des échappatoires à leur contrôle et à leur médiation. Donc le fait de pouvoir être sur Clubhouse, c'est aussi, pour l'instant en tout cas, est-ce que c'est fin ? Ce sera une des questions qu'on va se poser, mais ça reste un espace, en tout cas, de liberté, d'entre-soi, certes, mais où on a l'impression de pouvoir recréer cette effervescence, cette atmosphère où on peut parler de tout et ça ressemble plus en fait à une libre-antenne qu'autre chose.
Alors essayons de présenter un petit peu Clubhouse ensemble. C'est une plateforme de discussion audio. On s'inscrit avec un numéro de téléphone. On utilise normalement sa véritable identité, son prénom, son nom, une photo de profil, un bon profil. Et c'est un principe de conférence, un petit peu comme des webinaires. Un ou plusieurs modérateurs, des gens qui s'expriment, une audience classée en deux parties d'ailleurs. C'est intéressant. intéressant. D'abord, les premiers rangs, donc composés des profils suivis par ceux qui sont sur scène ou en train de modérer la discussion, puis le reste de l'audience. Et le principe, c'est que pour monter sur la scène, avoir le droit de parler, on doit lever la main et ensuite être autorisé par un modérateur.
Absolument. Je pense que d'abord, la forme de conférence, elle dépend beaucoup des rooms, des salles de discussion dans lesquelles tu navigues. Moi, les premières salles de discussion auxquelles j'ai participé, ce sont des salles de discussion américaines ou plus internationales ou avec une culture beaucoup plus souple sur la prise de parole et sur la discussion et où on pouvait passer d'un sujet extrêmement tech et entrepreneurial et économie numérique à des sujets beaucoup plus méditatifs, des questions spiritualité ou des questions de grandes tendances du moment. Donc ça n'a pas grand-chose à voir, si j'ose dire, avec la façon dont un public francophone, ou plutôt français, va aborder Clubhouse. C'est vrai que les premiers Frenchies, pour faire un très mauvais franglicisme, à avoir débarqué sur Clubhouse, à avoir été cooptés, ce sont plutôt des gens de nos écosystèmes, on ne va pas se mentir, Steven.
Donc
plutôt
du des web, journalistes, du journalisme, la communication.
Des entrepreneurs, des gens de la communication, de la publicité, qui ont eu envie assez rapidement et un peu... Allez, je vais quand même le dire à la française, d'essayer déjà de comprendre ce qu'était Clubhouse. Donc en fait, ils sont sur Clubhouse pour, j'y suis aussi, hein, pour parler de Clubhouse, déjà. Ça, c'est intéressant. Donc essayer de comprendre quels peuvent être les codes de Clubhouse, comment on peut s'approprier ce réseau-là. Est-ce que c'est une bonne chose de débarquer en tant que marque média sur Clubhouse? Ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Donc on voit que c'est assez drôle parce que l'approche est complètement différente. Tu as une approche, je vais prendre un coup de vieux, mais assez millénial sur les rooms américaines ou plus internationales, qui est, ben, voilà, c'est un outil génial, c'est guidé par la voix, on s'en empare comme d'une discussion, c'est aussi simple que ça, et on y va, on va voir ce que ça donne. Et puis tu as une approche un peu plus européenne, ou en tout cas un peu plus francophone française, qui est de se dire, il faut d'abord comprendre l'outil pour savoir vraiment ce qu'on veut en faire. Mais c'est assez intéressant en matière d'interculturel et d'approche différente pour comprendre comment on va s'approprier l'outil en tant qu'utilisateur.
Certains commentateurs, notamment les boomers, ont dit que ça leur rappelait l'époque de l'ouverture de la bande FM en France, les années 80, les fameuses radios libres, justement. La parole est à tout le monde, on peut s'exprimer sur tous les sujets.
Oui, absolument, sur tous les sujets. Et pour l'instant, ça fait partie vraiment des guidelines établis notamment par Paul Davidson, qui est le cofondateur de Clubhouse, qui n'en est pas à son premier essai en matière de start-up. Hein, mais c'est l'idée de se dire que, autant que faire se peut, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais on essaie de garder de la bienveillance vis-à-vis des utilisateurs, de nos auditeurs et de nos auditrices. Et le fait de devoir lever la main pour prendre la parole, c'est aussi assez intéressant parce que ça permet d'organiser aussi la discussion, ça permet de faire que la parole soit bien distribuée. Après, tu as certains modérateurs, puisqu'on n'est pas speaker en fait sur Clubhouse, tu as deux rôles, soit auditeur, auditrice, soit modérateur, modératrice. Et les modérateurs, modératrices ont les droits pour prendre la parole, pour faire monter en effet dans l'espace de discussion et la scène, le stage, les speakers et speakeuses dont ils ont envie de voir l'opinion s'exprimer. Donc ça permet quand même d'organiser sa discussion pour que tout le monde puisse s'entendre. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'au départ, oui, comme encore une fois, c'est un réseau qui est guidé uniquement par la voix, par l'audio, le plus vieux média du monde finalement, et qui est peut-être son futur, c'est ça qui est intéressant. Tu es obligé d'être attentif. Ça ne peut pas partir dans tous les sens. Mais je pense qu'il y a aussi un effet... Encore une fois, sortie des, je reprends cette expression hein, qui est la mienne, je la brevette, des majors des réseaux sociaux, sortie de cette emprise-là, on essaie aussi de se dire qu'on aborde un nouveau média, une nouvelle plateforme sociale, plutôt que réseau, plateforme sociale, avec aussi un regard neuf et des règles neuves. Et on essaie en tout cas de s'y tenir au début. Je ne sais pas ce que ça va donner dans 6 mois, hein, soyons francs. Et en plus, pour l'instant, on est juste sur un réseau qui se limite aux utilisateurs d'iPhone, donc sur iOS.
C'est ça, on va y revenir. Bon, en fait, mais c'est toujours le cas pour n'importe quel réseau social. En fait, ce sont les communautés qui s'en emparent, qui créent l'étiquette et les règles de conduite de cette plateforme-là et qui vont la façonner. Chose intéressante pour l'instant, c'est qu'il y a peu d'utilisateurs au final de Clubhouse dans le monde. Une douzaine de millions d'utilisateurs, peut-être un petit peu plus pour le moment. Et donc, on a vu certaines célébrités apparaître, notamment des grands patrons des GAFA, comme Mark Zuckerberg. On a vu aussi Elon Musk passer une tête, Xavier Niel, le patron de Free. Chose aussi passionnante, je trouve, c'est la communauté noire américaine, et notamment les figures de Black Lives Matter, qui tiennent audience et qui s'expriment et qui débattent sur Clubhouse.
Absolument. Alors, encore une fois, ça reflète aussi la diversité des discussions qui peuvent avoir lieu dans la société, dans la vie courante, dans nos écosystèmes aussi. Et le fait que, en tout cas, au moment où le réseau a été lancé au printemps dernier, où on était au tout début des lockdowns et des confinements un peu partout dans le monde, Et on a très vite on est sur la semaine d'ouverture du procès de Derek Chauvin à Minneapolis, pour le coup, sur l'assassinat de George Floyd. On a très vite eu aussi besoin d'endroits et d'espaces pour pouvoir, non pas canaliser, c'était pas le bon terme, c'est pas celui que je cherchais d'ailleurs, mais que cette expression-là puisse avoir son libre cours. Et surtout, sans médiation autre que celle vraiment de la communauté Black Lives Matter. Et vraiment avoir aussi cette position, nous, alors on va pas, enfin, on se le cache pas, moi je suis une femme a priori blanche, européenne. Ce que j'ai appris en écoutant les conversations de mes amis afro-américains à ce moment-là, c'était vraiment d'écouter. De prendre part à cette discussion, mais en étant en position vraiment d'écoute attentive pour mieux comprendre, plutôt que d'avoir le réflexe de prendre la parole avec un réflexe finalement qui est peut-être une pavé de bonnes intentions, mais qui est de venir secourir, venir supporter, alors que c'était un moment pour justement écouter et se mettre en retrait.
Donc là, on est dans du véritable free speech à l'américaine aussi, qui est fondamental, et avec l'idée justement de s'écouter, que tout le monde a le droit de prendre la parole. Et on reviendra peut-être tout à l'heure sur les questions de la modération. Ouais. C'est une plateforme Clubhouse qui rend totalement accro, qui joue sur l'addiction, donc certaines marques évidemment veulent s'en emparer. Mais il y a encore peu de marques médias. Mmh. Y vois-tu, toi, Marjorie Paillon, des opportunités en tant que média ?
Alors, ça a été l'objet d'une discussion à laquelle j'ai essayé de te faire participer, d'ailleurs. Puisque j'ai vu qu'entre-temps...
Tu n'étais pas totalement disponible.
Oui, je sais.
En fait, il faut noter que...
Il faut être disponible pour être sur Clubhouse.
Il faut être disponible parce que tout se passe en direct. Ouais. On ne peut pas rattraper une conversation qui s'est tenue. Mmh. Et donc, si ça tombe à 18-19 heures, que c'est le moment de s'occuper des enfants, de leur faire à manger et tout, ce n'est pas l'idéal.
C'est pas possible. Oui, et ça, c'est très intéressant parce que ça définit ici beaucoup de choses de la pratique qu'on va en avoir in fine. Mais je voulais te faire justement... On tenait une salle de discussion avec nos amis de Radio-Canada, nos amis d'Eurosport avec Aude Baron, et aussi Europe 1, qui a été finalement un peu le premier média alors, à créer un compte au nom d'Europe 1. Et moi, c'est vrai que j'avais rarement vu. La seconde personne que j'ai vu faire ça, c'était toi, avec l'Atelier des Médias, Atelier des Médias sur Clubhouse. Et c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut aller sur Clubhouse en tant que média, en tant que marque média, en tant que marque émission? Moi, j'ai beaucoup de retenue par rapport à ça parce que je ne suis pas persuadée que nos auditeurs, nos auditrices, nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, nos lecteurs, nos lectrices aient envie de nous retrouver sur un espace comme celui-là. Je pense qu'au contraire, ce qu'ils nous ont montré sur ces dernières années, dernières saisons, derniers mois, c'est qu'ils avaient parfois un petit peu envie qu'on leur lâche les baskets et qu'on les laisse avoir leur propre centre d'intérêt, leur propre discussion, leur propre driver pour pouvoir mener cette conversation. Est-ce que les marques médias ont intérêt à y aller ou est-ce que c'est plutôt nous en tant que, je ne vais pas dire personnalité, ça ne veut rien dire, mais nous en tant que personnes, utilisateurs, utilisatrices, nous aussi, d'engager la conversation avec eux en se départissant finalement de la marque média qu'on peut incarner par ailleurs sur nos antennes. Ça, par contre, ça me semble plus intéressant.
Et ce qu'on se disait en préparant cette émission, c'est que les médias, avec des réseaux du type Clubhouse ou Twitch, ont sans doute plus que jamais besoin justement d'avoir des ambassadeurs sur les réseaux sociaux, des journalistes ou d'autres personnes travaillant dans cette marque média, peut-être au service communication, marketing, technique même, sont censés et doivent pouvoir prendre la parole. Après, la grande question, eh bien, c'est qu'ils arrivent avec leur prénom, leur nom, leur véritable identité et qu'ils doivent utiliser le jeu. Ce qui, pour un journaliste, n'est pas toujours évident de dire ce qu'il pense, d'utiliser la première personne du singulier, tout simplement.
C'est vrai, tu as raison. Alors, c'est drôle parce que ça tombe aussi, c'est une catharsis, cette interview, c'est pas possible. Ça tombe aussi sur une semaine où j'ai eu la chance d'être interviewée par Fabien Roques pour son podcast Anti-Brouillard, qui s'intéresse aussi beaucoup aux technologies. Et donc, du coup, c'est assez drôle parce que je m'aperçois que moi-même, je me retrouve dans la position d'être interviewée, de devoir dire « je » et de ne plus poser les questions. Et c'est vrai que c'est un exercice étonnant. Quand on est j'allais dire de l'autre côté du micro, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on a vocation à prendre parti ? C'est pas forcément une question de prendre parti. C'est à un moment donné aussi l'idée, la conversation, guider cette conversation, pardon, un mauvais franglais encore une fois, par le fait d'interagir en prise directe avec ses autres utilisateurs et utilisatrices. Je pense qu'il faut rester sur le même niveau, en fait, sur la même échelle. On est utilisateur et utilisatrice au même titre que d'autres utilisateurs et utilisatrices. Et on n'est pas comme sur un média traditionnel où on a une position d'expert ou une position de sachant. On a une position d'apprenant comme tout le monde.
Gros enjeu pour une plateforme comme Clubhouse, un enjeu qui est commun à nombre de géants des médias sociaux, c'est la question de la modération des contenus. Clubhouse n'y échappe pas. Pour l'instant, c'est du direct. Il n'y a pas a priori de véritable modération, puisque chacun peut lancer une salle, une room de conversation sur le sujet qu'il veut, avec qui il veut. Est-ce que, à ton avis, il va falloir justement que Clubhouse essaie de rétrécir un petit peu ça et établisse des règles dans les mois qui viennent ?
Alors, il y a plusieurs pistes pour le futur de Clubhouse. Je pense que Paul Davidson était en train de réfléchir lui-même, hein, l'un des deux cofondateurs de la plateforme. La première, c'est que toi, tu peux, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, reporter, signaler auprès de Clubhouse une personne qui se serait mal comportée dans une salle de discussion. Donc ça, c'est déjà une fonctionnalité qui existe, hein, et qui est très présente dès que tu appuies sur le profil dans des autres...
Tu l'as déjà fait ?
J'ai jamais reporté, j'ai regardé comment ça fonctionnait et en fait, je me rends compte surtout que le bouton pour signaler la personne est très très près du bouton pour la faire monter sur scène. Donc c'est assez paradoxal, il ne faut pas se tromper. Mais surtout, si tu signales une personne auprès de la plateforme, un utilisateur ou une utilisatrice, eh bien en même temps, il sera banni que la personne qui l'a coopté pour venir sur la plateforme. Donc il y a quand même cette idée de réputation à tenir sur Clubhouse qui fait que tu ne peux pas engager la réputation de la personne qui t'a fait entrer. C'est un peu complexe. Mais ce qui explique aussi que je pense que une fois que les utilisateurs et utilisatrices auront compris ça, ils vont être beaucoup plus sélectifs sur aussi les personnes de leur réseau qui font entrer sur Clubhouse. Après, est-ce que cette norme va être levée ou pas ? On verra bien au fur et à mesure où la plateforme sera plus ouverte. Mais sur la partie modération, il y a aussi... Alors, ça va confiner à des sujets de privacy et d'hébergement. Encore une fois, on va mettre la main dans les tuyaux. Hein, parce que si on ne regarde pas ce qui se passe de l'autre côté de la plateforme, on ne fait pas notre job.
Donc là, ce que tu veux dire, c'est que les serveurs de Clubhouse sont localisés en Chine.
Tu le dis beaucoup mieux que moi. C'est magnifique. Via une société qui s'appelle Agora.
Basée à Shanghai.
Absolument. Et ce qui expliquerait, ou en tout cas, ce qui est assez étonnant, parce que de façon concomitante, des utilisateurs chinois avaient commencé à venir sur Clubhouse, à tenir justement des discussions très libres sur le régime chinois, sur le statut de Hong Kong, sur la question de Taïwan, sur plein d'autres questions liées à Pékin. Et quelques jours après, la Chine a décidé de censurer, de ne plus pouvoir permettre à Clubhouse d'être téléchargé par les utilisateurs chinois et chinoises.
Donc les serveurs de Clubhouse sont localisés en Chine, mais les utilisateurs chinois ne peuvent pas avoir accès à cette application qui est censurée. C'est
assez cocasse. Ça fait toujours partie des paradoxes du web.
Et l'application Clubhouse est également montrée du doigt pour sa gestion des données personnelles, c'est-à-dire que lorsqu'on rejoint l'application, on voit les contacts que l'on a qui ne sont pas encore sur cette application, et le nombre de contacts qu'eux-mêmes ont qui sont déjà sur Clubhouse. Donc c'est une aspiration du répertoire des utilisateurs de l'application Clubhouse.
Ce qui est intéressant parce que ça revient aussi à la période dans laquelle on est entré. Ces questions de privacy, ces questions d'aspiration de données, ces questions d'hébergement, on ne se les serait certainement pas posées au début de Facebook, au début d'Instagram, au début de Twitter. Aujourd'hui, c'est un premier réflexe que de se les poser parce que tu sais, on est entré dans une ère où on est sorti de cette fascination de la technologie, où on innovait pour le plaisir de l'innovation et où on était early adopters, à une ère où on est dans la défiance vis-à-vis de ces technologies. Donc à chaque fois qu'on va utiliser une nouvelle technologie, qu'on va entrer sur une nouvelle plateforme, on va d'abord se mettre dans une position de se poser des questions éthiques, des questions d'utilisation consciente sur ce réseau, sur cette technologie, avant même de l'adopter.
Clubhouse, c'est une start-up qui a été lancée, en tout cas le service, lui, est lancé en ligne depuis un an, depuis mars 2020. L'application est toujours gratuite, déjà valorisée 1 milliard de dollars, après avoir levé 100 millions de dollars d'investissement. Problème, on le disait tout à l'heure, c'est qu'elle est réservée aux seuls possesseurs d'iPhone, puisqu'il n'y a pour l'instant pas d'application Android.
Et ça fait partie des critiques qui sont opposées en effet à Clubhouse, notamment par les utilisateurs Android, en disant, mais attendez, c'est quoi encore ce club VIP, ce club d'entre-soi où on n'a que des utilisateurs d'iPhone qui sont acceptés. Ce qui est intéressant, c'est que ça a donné l'idée justement à la concurrence de se lancer en priorité sur Android. Et ça t'a pas échappé, c'est le cas de Twitter avec Spaces, qui est vraiment une copie conforme quasiment de Clubhouse, qui est vraiment une fonctionnalité de Twitter qui permet de s'exprimer uniquement par la voix dans des salles de discussion restreintes et qui s'est lancée donc en priorité sur Android. Moi, je dis, bah, tiens, justement, il y a un segment à prendre. Et Dieu sait que le segment, il est quand même assez énorme en matière d'utilisation.
C'est ça. Android. Par exemple, pour nos auditeurs, en France, seuls 25% du parc de téléphones mobiles est composé d'iPhone. Mm-hmm. Mais c'est encore énorme, 25%, si on compare ça avec d'autres pays, notamment en Afrique, où on sera plutôt sur du 90-95% Android.
Absolument.
Sinon plus. Donc Paul Davison, un des cofondateurs de Clubhouse, justement, a affirmé dernièrement qu'une version Android de son appli était l'objectif principal de ses équipes. Je cite « En conclusion, j'aimerais qu'on parle ensemble du retour de hype autour de l'audio. Évidemment, il y a la folie, ou en tout cas la grande croissance du secteur des podcasts, mais j'aimerais qu'on parle ensemble du web social conversationnel audio. Est-ce que tu y crois, toi ?»
J'y crois, oui. Tu as vu, j'ai dit « je ». Mais pour une bonne raison, c'est que la voix, c'est ce qu'on se disait au tout début de cette interview, c'est le plus vieux média du monde. La voix, c'est le fil qui nous permet de raconter des histoires. La voix, c'est le fil qui nous permet de nous rassembler. On est sur RFI, donc quel plus bel endroit pour en parler. La voix, c'est le fil qui nous permet de tout imaginer. Et j'imagine que des hommes, des femmes d'ailleurs, des cavernes jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été ce lien qui à la fois dévoile une part d'intime et qui rassemble. Donc c'est extrêmement intéressant que l'audio revienne justement dans la tendance et à la une, avec finalement des formes de technologie qui sont les plus anciennes. Le podcast, c'est une technologie qui a plus d'une dizaine d'années, qui a explosé depuis 3-4 saisons maximum, qui donne lieu à des formes extrêmement diverses, que ce soit de la conversation, de l'interview, du récit,
de l'enquête.
On peut se dire que sur Clubhouse, on peut aussi se laisser la possibilité à imaginer plein d'autres formes différentes. Est-ce que ce sera que de la simili-conférence, discussion ouverte, radio libre, libre antenne, ou est-ce qu'il y aura aussi des choses un peu différentes? Moi, j'ai participé à une expérience il y a quelques jours, par exemple, avec un groupe d'amis totalement fous, mais c'est pour ça qu'on les aime, qui était de faire un festival pendant 7 heures d'affilée sur Clubhouse. On a tenu une room, une salle de discussion qui s'appelait Impromptu. Et on avait des créateurs qui venaient du monde entier, de Finlande, André de Ridder qui est chef d'orchestre allemand. On avait des cinéastes, on avait des experts du web, on avait Tariq Krim par exemple sur le slow web, on avait des féministes, on avait plein de gens. On avait Laura Mankini aussi qui est une personne formidable qui a développé une application sur la mort de la mort. Là aussi, et sur la longévité, c'est extrêmement intéressant. Donc on a tenu cette salle de discussion pendant 7 heures et l'expérience que j'en retiens, c'est que là aussi, il faut laisser libre cours aux formes qu'on a envie de donner. Et parfois, la discussion ne va pas forcément se dérouler comme on l'avait pensé au départ, mais ce n'est pas grave, c'est juste direct.
C'est plein de surprises. Merci beaucoup, Marjorie Paillon.
Merci, Steven Jambeau.
Merci d'être venue en voisine dans l'atelier des médias de RFI. J'invite ceux qui nous écoutent à suivre ton émission Tech 24, qui décortique chaque semaine sur France 24 les dernières tendances de la planète high-tech.
Avec Guillaume Grallet du magazine Le Point.
Voilà, sur l'impact aussi des révolutions numériques sur notre quotidien. À bientôt.
À très vite, merci beaucoup. Hello, my love.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui donne à entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, c'est le blogueur camerounais Ecclésiaste de Djui qui nous parle.
Chacun d'entre nous est un peu blogueur. Ceux qui tweetent tous les jours ne s'en rendent même pas compte. Les professionnels qui démultiplient les recrutements sur LinkedIn non plus. C'est pareil pour les Instagrammeuses et Instagrammeurs avec leurs photos et leurs courtes vidéos. Ceux qui font des publications et des directs sur Internet sont aussi un peu des blogueurs à leur façon. Les politiciens sont aussi des blogueurs, à commencer par M. Paul Biya, qui avait annoncé en 2018 sa candidature à partir de son compte Twitter. À commencer par tous les militants du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et des autres partis d'opposition qui ne font que s'invectiver par voie de postes interposés. car que ce soit les journalistes d'opinion ou les simples sympathisants, tous les gens qui pratiquent de la politique sur Internet sont aussi un peu des blogueurs à leur manière. Les Camerounais et Camerounaises sont aussi des blogueurs. Sur les réseaux sociaux, ils ont conservé ce côté journal intime qui était autrefois primordial lors de la naissance du blogging. Il fallait alors raconter sa vie privée sur un hébergeur qui était pourtant public. Tout comme fait, la seule différence est que les blogueurs officiels entretiennent un blog. Mais même vous, chers auditeurs, vous êtes aussi des blogueurs.
C'était Ecclésiaste de Djui, mondoblogueur camerounais. Et puis je vous rappelle que vous avez jusqu'au lundi 15 mars au soir pour déposer votre candidature et devenir peut-être vous aussi une blogueuse ou un blogueur de RFI. Le concours 2021 de Mondoblog a pour thème « Toutes et tous, actrices et acteurs du changement ». Allez soumettre votre candidature sur concours.mondoblog.org. C'est la fin de cette émission que vous pouvez écouter en version longue sur toutes les plateformes de podcast. Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict ou encore Apple Podcast. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, donnez-nous 5 étoiles sur ces applications, cela nous permettra d'être visible et donc encore plus écouté. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr, je vous répondrai. Merci à Simon Decreuse qui a réalisé comme chaque semaine cette émission et à Juliette Labracherie qui a piloté Mondoblog Audio. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une émission entièrement consacrée à la semaine de la presse et des médias à l'école. Merci d'être à l'écoute de RFI et de l'Atelier des médias.